إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث متواصلا في المسائل الخمسة التي ذكرناها واخترناها لكم ضمن باب الطهارة. وأذكركم هذه الحصة تتمة للحصة السابقة، يعني حصة يوم الجمعة السابق، فأحمد الله وأشكره أن يسر لنا هذا. ولا يزال الحديث متواصلا في هذا الباب العلمي الذي يحتاجه كل مسلم، وهو باب الطهارة. فأخبركم أني اخترت لكم بعض المواضيع التي يعني ينبغي على المسلم يعني معرفتها، وتطرقنا إلى بعض المواضيع هذه المواضيع، وأذكر منها ذكرنا الموضوع الأول وهو حكم غسل الجمعة، وذكرنا فيه وأضمنا يعني النفس، فمن أراد أن يستزيد فليراجع أو يرجع إلى الدرس المسجل الموجود على موقع مسجد السلام. والموضوع الثاني الذي تطرقنا إليه وهو الفرق بين المني والمذي والودي، وذكرنا هذه الأحكام وقرأنا عليكم كلام أهل العلم في هذه المواضيع. وبقيت لنا ثلاثة مواضيع نبدأ اليوم إن شاء الله وفي هذه الليلة بالأخص. الموضوع الثالث ألا وهو حكم مس الذكر، حكم مس الذكر، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ فهذه مسألة كثير من الناس من يتردد في حكمها أو يتجاهلها، فإن شاء الله سنحاول أن نبين لكم قدر المستطاع وبالأخص عرض كلام أهل العلم في هذه المسألة، عرض كلام أهل العلم في هذه المسألة. والموضوع الرابع إن شاء الله الذي سنتطرق إليه في ليلتنا هذه إذا بقي الوقت إن شاء الله، حكم غاسل الميت، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ غاسل الميت. والموضوع الخامس ربما سنذكر بالأخص حكم قراءة القرآن للجنوب، حكم قراءة القرآن للجنوب إن شاء الله تعالى. Donc je disais, notre assise aujourd'hui إن شاء الله c'est la continuité de la séance qu'on avait commencé le vendredi dernier. Et dans cette séance, je vous ai choisi cinq sujets différents, vu le temps et le cours. Donc j'ai choisi certains sujets dans lesquels sont très importants. Et parmi ces sujets que j'ai choisis, je l'ai choisi par rapport et pendant les dorus qu'on avait pris ensemble. Certaines personnes ont toujours posé ces types de questions. Et j'ai trouvé l'utilité et le besoin de connaître certains jugements concernant ces sujets. Donc c'est pour cela que je les ai choisis. Donc ce n'est pas un choix personnel, mais vu le besoin et l'intérêt de tout le monde. Donc le premier sujet que j'ai choisi, c'est le jugement du ghusl du Jumu'ah. Le jugement du bain rituel concernant ou pour le jour du Jumu'ah, du vendredi. Et comme je vous ai dit, on a bien éclairci le jugement concernant ce sujet. Et celui qui souhaite avoir plus d'informations et plus de détails, qu'il revient au dars enregistré qui est sur notre site, c'est-à-dire le site de la mosquée du Salam sur Internet. Donc tous les dars sont enregistrés. Deuxième sujet qu'on avait traité, la différence entre Al-Mani et Al-Madi et Al-Wadi. Donc on avait expliqué, et surtout j'ai lu deux fatwas de l'Ijna Daima concernant ce sujet, qui est quelle est la différence entre le sperme, c'est ça et ça, Al-Madi, Al-Mani, c'est le sperme, et le deuxième, le pré-éjaculatoire, Al-Madi, et le troisième qu'on appelle Al-Wadi. Et on a expliqué que, je n'ai pas trouvé la traduction exacte, mais selon ces caractéristiques, on saura c'est quoi exactement, et ce n'est pas très nécessaire de connaître exactement son nom exact, mais on a dit c'est le liquide qui sort après les urines. Donc ça c'est Al-Wadi. Donc ça c'est le deuxième sujet, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre... Déjà, il y en a qui ne connaissent même pas que ça existe. Sinon, ceux qui le connaissent, peut-être, ils ne distinguent pas la différence. Pourquoi? Parce que il y a un qui nécessite un rost et l'autre pas. Donc, c'est très important de connaître qui nécessite le bain rituel, c'est-à-dire les grandes ablutions, et qui nécessite juste les ablutions. Voyez, donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet qu'on va aborder aujourd'hui, cette nuit, Inch'Allah, quel est le jugement de toucher la partie intime? حكم مس الذكر فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ Donc ça c'est le sujet de cette nuit qu'on va aborder aujourd'hui. Et autre sujet, si nous reste du temps, j'ai choisi un quatrième sujet qui est quel est le jugement de celui qui lave le mort? غاسل الميت. Est-ce que c'est une obligation qu'il fasse le ghusl ou il est préférable? On verra inshallah. Et un cinquième sujet qui est aussi très important pour nous. Quel est le jugement de la lecture du Coran, celui qui a une impureté majeure? Celui où on n'est pas junoub, est-ce qu'il a le droit de toucher le Coran? Est-ce qu'il a le droit de lire le Coran pour réviser par exemple? On verra inshallah. Le jugement de chaque sujet restant inshallah. Donc aujourd'hui on va parler sur, je vais commencer par le troisième sujet, حكم مس الذكر. وعيد سأتكلم إن شاء الله حول حكم مس الذكر وكعادتنا والحمد لله أعرض عليكم بعض الأحاديث النبوية الثابتة من كتاب بلوغ المرام وأعتمد على شرح الشيخ عبد الله آل بسام رحمه الله تعالى أي شارح هذا الكتاب القيم هو كتاب في متن الحديث وكتاب في الحديث يعني يصنف أهل العلم من كتب الحديث بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتدرج في طلبه للحديث الأولى هو أن يبدأ بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله وبعدها يتطرق إلى عمدة الأحكام وهو كتاب في الحديث يتضمن كل المواضيع الفقهية من باب الطهارة إلى باب الحدود إلى آخر باب من أبواب الفقهية وعلى مجلد حتى الشرح على مجلد والمرتبة الثالثة بعد الانتهاء من هذا الكتاب عمد الأحكام يعني ينصح بطلب أو أخذ العلم يعني الأخذ من هذا الكتاب هو بلوغ المرام فأعتمد على هذا الكتاب لماذا؟ لأن شارح هذا الكتاب يعني أجاد في شرحه وهو كتاب قيم أنصحكم بالحصول عليه والرجوع إليه في المسائل الفقهية فهو كتاب نافع يذكر يعني شرح الحديث ثم يذكر المعنى الإجمالي ثم يذكر يعني غريب الحديث ثم يذكر ما يستفاد من هذا الحديث وأحيانا يذكر الخلاف إذا وجد الخلاف ويحاول الشيخ يرجح ويذكر يعني القول الراجح في كل مسألة فهو كتاب يعني صنفيته يعني قيمة وجيدة فقلت لكم الآن إن شاء الله كالعادة أقرأ عليكم بعض الحديث الخاصة بالموضوع ثم نتناقش فيما بيننا ونتدارس حتى نتفقه donc je disais comme d'habitude la façon de faire la séance c'est toujours se baser sur un livre et en particulier toujours citer les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme vous le savez le livre sur lequel je me base c'est l'explication du livre Bulugh al-Maram de Cheikh Abdallah al-Bassam on a beaucoup et plusieurs charh explications de ce livre en particulier je connais beaucoup qui sont en arabe mais en français je ne connais pas à moins celui qui le connaît. Vous connaissez un cheikh en français de Boulogh Maram? De ma connaissance, je ne connais pas Allahu A'lam. Il y a beaucoup de cheikhs de ce livre de Boulogh Maram, je vous conseille de l'avoir et de revenir à ce livre qui est très important et utile, parce qu'on est des débutants dans la science, donc c'est très bien de revenir sur ce livre. Et je dis surtout, ceux qui veulent, souhaitent apprendre le hadith, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas n'importe quelle parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants toujours, ils recommandent de commencer par l'arba'in al-nawawiyah, les 40 nawawi, c'est ça? Les 40 nawawi de l'imam al-nawawi, rahimahullah, 40 hadiths de base, qui regroupent toute la religion, 40 hadiths. Ensuite, dans le deuxième niveau, après de terminer l'arba'in al-nawawiyah, il recommande d'aller, de monter l'échelle et aller voir Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam dans le hadith aussi. C'est un modèle, c'est un livre. Il y a beaucoup d'explications de ce livre, mashallah, et alhamdoulilah, des grands savants. Et dans le troisième niveau, après de terminer ces deux, il recommande d'aller voir Boulogh al-Maram, sur lequel je me base. Comme ça, on sait d'où on prend notre science. C'est pas, on cite des paroles, on cite des avis, et on dit, voilà, c'est notre religion. Non. Al-ilmu, qala Allahu, qala Rasulu, qala sahabatu, hum ulul irfani. Comme il avait cité, l'imam al-Muqayyim, rahimahullah. La science est, Allah a dit, le prophète a dit, et les sahaba ont dit. C'est eux qui connaissent, mieux que nous. Donc notre religion, elle se base sur ça. Donc c'est pour ça, toujours, et souvent je reviens sur un livre, référent connu, comme ça, on saura d'où on a appris notre science, et non pas des avis qu'on ne sait pas d'où vient. Donc le sujet que je vais aborder, le jugement de toucher la partie intime. Qui connaît, ou qu'est-ce que vous connaissez? Et ensuite, comme d'habitude, on va discuter, on va lire, pour trancher, on va lire qu'est-ce qu'ils ont dit les savants. De toute façon, c'est sûr et certain. Sans terminer. Qui connaît un avis sur ça? Qu'est-ce que vous pensez sur le fait de toucher la partie intime? Est-ce que ça n'est les ablutions? Ça n'est les grandes ablutions? Ça nécessite quoi? Nécessite un petit ablution ou les grandes ablutions? C'est-à-dire le bain rituel? Non. Amel, il dit que ça nécessite les ablutions. Mohamed, il rajoute un autre argument. Il dit, ça dépend si on l'a touché avec désir ou on l'a pas touché avec désir. Ça, c'est une deuxième réponse. Et ça. Voilà, un troisième chose à connaître. Ils disent, si on le touche directement ou on le touche à l'intermédiaire d'une chose, un tissu, etc. Taïr, qui connaît d'autre? Aïe, ma fi haya ya ikhwa, hada din, ma hukum ta, hukum masad dhakar, yani man, inda hu hukum, ou, ma huwa madhhabukum fi hadhihi al-mas'ala, hatta nasma' minkum wa nastafid, inshallah, wa thumma natadaris. يعني هذه الأقوال وختاما نقرأ عليكم أقوال أهل العلم حتى يكون مذهبنا في هذه المسألة إن شاء الله قدر استطاعتنا. نعم. واحد منكم عنده أبو تخبي اسكو ساني زبيشون وفا هيا. Qu'est-ce qu'on pense à toi ou lui, c'est la même chose. Hein? Ça nécessite les ablutions. Quoi d'autre? Aïe. Donc c'est autour à ce que ça nécessite les ablutions ou pas les ablutions. C'est ni ça ni ça. Il y a certains savants, ils ont préciser des conditions. Donc avant ça, je vais vous lire deux hadiths concernant ce sujet et on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit concernant ces deux hadiths. Comme ça, on aura et on saura Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet? Le premier hadith qui est عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل. Donc sur le طلق بن علي qui est un sahabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رجل, un homme a dit مَسَسْتُ ذَكَرِي, j'ai touché ma partie intime qui est le pénis. مَسَسْتُ ذَكَرِي أو قال, ou il a dit الرجل, donc il dit ou l'homme a dit يَمُسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ, ou il touche sa partie intime pendant la prière. عَلَيْهِ الْوُضُوء, donc cet homme, il pose la question pour son salam, il dit عَلَيْهِ الْوُضُوء, nécessite-t-il des ablutions, ou est-ce que les ablutions sont obligatoires pour lui, ou nécessite-t-il des ablutions? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu, a dit لا إنما هو بضعة منك, non, ce n'est qu'une partie de toi. C'est ça? Ce n'est qu'une partie de toi. Donc ça c'est le hadith. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Amen. Le prophète a dit la innama huwa bir'atun minka, non, ça ne nécessite pas les ablutions, ce n'est qu'une partie de toi. C'est comme la main, le pied, le nez, les oreilles, c'est une partie de chair de l'homme, de l'être humain. طيب, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith, de l'apparence du hadith, c'est-à-dire à partir de ce que je viens de lire, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est-à-dire si on touche, il n'y a pas d'ablution. C'est selon ce hadith rapporté par Talq ibn Ali. Hein? Rubbama. لكن السؤال يعني هل هذا يوجب الوضوء؟ Est-ce que ça nécessite les ablutions? Le cheikh l'a dit, est-ce qu'on lave les mains? On dit peut-être, parce que c'est une sagesse, etc. Nous, ce qui nous, c'est-à-dire, on met l'accent sur, est-ce que juste toucher la partie intime nécessite les ablutions? C'est-à-dire, est-ce que ça annule les ablutions si on n'est pas pur? Non. Il n'a rien dit. Le hadith, il est comme ça. Ça, c'est Shafi'iyya, ça. Il y en a des Shafi'iyya avec nous, mashallah. Non. Ça, c'est Shafi'iyya qui fait répondre Zahir ou Batin. On verra, inshallah. Donc, en général, donc ça, c'est l'apparence du hadith. D'après le hadith, ça n'annule pas. Le hadith, il est clair. Il dit Innama huwa bid'atun minka. Il n'a pas dit si tu as fait ça. Non. Dans le hadith, il n'a pas dit si tu l'as touché avec la. Comment on appelle ça? Là. Hein? La paume de la main où tu l'as touché de là? Comment on appelle ça de cette partie, cette face? Hein? Le haut de la main, non. Amen. Le dos de la main, voilà, le dos de la main. Le prophète sallam il a répondu directement, là, innama huwa bid'atun minka. Oui ou pas? Hadith il est clair. Ah. Donc ça, selon le hadith, on saura directement que, on va comprendre que, on va déduire que, anna masa dhakar la yunqid al-wudu. Min sarih, hadha al-hadith, li qawlihi lirajul, alladhi sa'alahu an hukm masa dhakar, aw hukm masa al-rajul dhakarahu, aw hatta fi salat, fa ajabahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la innama huwa bid'atun minka. Ça c'est un hadith. Je vais lire le deuxième hadith concernant toujours le même sujet. Wa an Bisrata bint Safwan radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, selon Bisra bint Safwan radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man massa dhakarahu falyatawadda. Celui qui touche sa partie intime, qu'il fasse un ordre. Falyatawadda. L'amr al-amr, c'est un ordre, qu'il fasse les ablutions. Et le hadith أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Donc il est rapporté par les cinq et Tirmidhi il a authentifié, il a rendu sahih, وابن حبان et même البخاري a dit c'est la وهو أصح شيء في هذا الباب, c'est la chose la plus authentique dans ce sujet concernant le jugement de toucher la partie intime, est-ce que ça annule ou ça annule pas. Donc selon le deuxième hadith, يعني من هذا الحديث, الحديث الثاني عن بصر بن سفيان صفوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ماذا نفهم أو ماذا يستنبط من ظاهر هذا الحديث عيسى؟ إيش تفهم؟ أنه ينقض الوضوء, أليس كذلك عامر؟ ظاهر الحديث وهو أيضا صريح في من مس ذكره يعيد الوضوء. طيب est-ce que tout va bien ou y a rien qui vous échappe? Comment dans le premier hadith il dit non, c'est qu'une partie de toi, donc ça n'annule pas. Dans la deuxième version du hadith, il dit man, celui qui touche sa partie intime, qu'il fasse les ablutions. Donc là, la deuxième, c'est le contraire. Est-ce que c'est normal d'avoir deux hadiths qui se contredisent? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est-à-dire, parmi nous, certainement, il a un avis qui dit que ça annule. Oui ou pas? Certainement, il va dire, moi, j'ai le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man massa dhakara falyatawadda. C'est vrai, il n'y a pas de mal pour ça. Parmi nous aussi, il va dire, non, ça annule pas. Pourquoi? Parce que moi, je me base sur le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la innama huwa bidatun minka. C'est quoi dans ce cas l'avis le plus juste? Et je répète, ça c'est très important à connaître. À votre avis, pourquoi je vous cite des fois deux hadiths qui se contredisent? Pourquoi je ne viens pas ce soir et je vous dis, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça, et voilà le jugement, et en continuant, et on a fait un jugement. Pourquoi je ne fais pas ça? C'est plus simple. Amen. Oui ou pas? Je dis un avis. Je dis par exemple, je veux dire, moi je vais choisir un des deux avis. Je vais choisir parmi les avis, l'avis le plus juste, et je vous cite comme il est, et je rentre chez moi, et tout le monde a appris un sujet. Pourquoi? Vous remarquez dans ce livre, il cite des hadiths, des fois un il dit oui, un il dit non, comme même la semaine dernière on l'a fait concernant le rose. On a eu des hadiths qui disent que c'est une obligation, des autres non, on peut selon, c'est-à-dire il a donné la possibilité de choisir et de dire, et que le professeur l'a dit c'est meilleur, pour dire que voilà, si tu le fais c'est meilleur, c'est-à-dire qu'il a donné le choix. Vous remarquez, toujours des fois on cite les deux avis différents. À votre avis pourquoi? Qui peut me donner une réponse? Ou qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, tout simplement la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Je lis un hadith, il dit la innama huwa bi'adun minka. Non, ce n'est qu'une partie de toi, c'est-à-dire il ne s'annule pas. Et le deuxième hadith, il dit, ou parmi les hadiths, il y a beaucoup. Choisis un par là, un par là. Et le deuxième, il dit man massa dhakara falyatawadda. Celui qui touche sa partie intime, qu'il refasse ses ablutions. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Aïe, Hajj. Masha'Allah. Quoi d'autre? Ça, c'est sûr et certain, on doit revenir au charbon. Ça, c'est une bonne réponse. On réunit entre les deux hadiths. On réunit entre les deux hadiths. Ça, c'est une bonne réponse. Et les savants, ce qu'ils font. Parce que beaucoup, et on rejoint beaucoup, hein, des échos, de dire, mais de toute façon, moi je choisis un seul hadith et je ne cherche pas à comprendre. Ou de dire, moi je choisis un avis ou une école comme ça et c'est tout. Non, ya Abdallah. Non. Tu as recommandé que tu dois adorer Allah avec certitude, c'est-à-dire, tu dois connaître qu'est-ce qu'Allah t'a recommandé de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il t'a recommandé de faire? Tu dis pas, non, moi je choisis un avis comme ça. Il y en a que, on va plus loin que ça. Il va choisir parmi les avis le plus rentable pour lui. Oh là là, Samir. Hein? Il y en a? Ils savent, Maliki, qu'est-ce qu'ils disent, Shafi, qu'est-ce qu'ils disent, Halabi, qu'est-ce qu'ils disent. Non, mais moi, de toute façon, Abdin Yusr. C'est ça ce qu'on connaît, on n'entend que ça. Abdin Yusr. Ben dans ce cas, les savants, pourquoi ils sont là? Pourquoi les savants sont en train d'expliquer des livres de hadith, des milliers et des milliers et des milliers de hadiths? Pourquoi les savants sont en train de demander la science? Pourquoi les savants sont en train de protéger la science? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? C'est dans ce cas, si on répond, il suffit de répondre, c'est vrai, à Dino Yusuf. Mais c'est les savants qui nous choisissent ce Yusuf. Quand on dit, ah, la religion, c'est une facilité, il faut choisir. Non, c'est pas toi qui choisir, c'est pour ça que je dis. Mais les savants, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils étudient des hadiths? Ils font des traces des hadiths? Ils recherchent si le hadith est authentique ou pas? Si, pourquoi on arrive à ce point? Pour protéger notre dîn. Bien sûr, le dîn est lius. Ça, c'est. Il y a une unanimité sur ça. Le prophète a dit. Et les savants, ils sont unanimes sur ça. Que la religion est une facilité. Ça, c'est sûr et certain. Mais la question qu'on la pose, qui choisit cette facilité pour nous? Est-ce que mes passions ou est-ce qu'on revient au savant? C'est ça le problème. Et c'est ça que certes, beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est vrai, Abdinou Yusr, mais on revient au savant pour qu'ils nous choisissent, eux, la facilité. La bonne facilité. Parce que nous aussi, on choisit la facilité, certainement. Avec quoi, Issa? Avec quoi si on choisit une facilité? Non. Avec nos désirs, avec nos passions. On n'a pas d'ilm. Ça, je le dis. On n'a pas d'ilm. Comment on peut choisir un avis plus fort et savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? On ne saura pas. Donc c'est pour ça qu'on revient en savant et on verra. C'est eux qui nous choisissent l'avis le plus fort. Et le frère Issa dit, dans ce cas, on a un hadith, il dit, il annule les ablutions. Le deuxième, il dit n'annule pas. Donc là, on va revenir. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ça, c'est une bonne information à connaître. Des fois, si on a des hadiths qui se contredisent, la meilleure situation ou le meilleur rôle que le musulman peut l'appliquer contre ses hadiths ou vis-à-vis de ses hadiths, c'est de regrouper ses hadiths. C'est-à-dire choisir un avis, ou les savants, ils vont donner un avis qui permet de choisir ou respecter les deux hadiths. C'est-à-dire être au milieu, et comme on va le répéter, être juste et l'avis le plus, ou l'avis qui réunit les deux hadiths, même si pour nous ils se contredisent. Là, on va lire un passage des savants, ils vont dire, quand on va écouter le passage, on va dire que subhanallah, c'est vrai. En fait, ils respectent le premier hadith. Il respecte le deuxième hadith. Pourquoi pour nous? Parce qu'ici ou nous, là comme on est là, dans cette assise, certainement, un, soit parmi nous ils choisissent le premier hadith, ils vont dire qu'il annule, moi je refais les ablutions, ou parmi nous, ils vont choisir le deuxième hadith, mais ils vont rejeter le premier, oui ou pas? Parce que si je choisis le premier, donc je vais rejeter le deuxième, si je choisis le deuxième, je vais rejeter le premier. Oui, il va prendre. Et il râle et أن الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى قول في المسائل الفقهية وهو حالي وحالكم كمبتدئين في هذا العلم ينظر ما هو الأصلح له أو في بعض منا من يتتبع الرخص فيقول ما دام هذا رأي ورأي المذهب هذا رأي حنفي أو شافعي أو مالكي أو غير ذلك، يقول لك أنا لي أتعب نفسي أختار أنا بنفسي الرأي يعني المذهب وبس أقف هنا، لماذا يعني أتعب نفسي وأرجع إلى العلماء وكذا كذا، الأمر سهل. لا، فالحذر الحذر من هذه المصيبة، لأن هذا يدخل من باب تتبع الرخص، لأن الإنسان إذا لم يكن على بصيرة وعلم وأخذ العلم عن أهل العلم فهنا لا شك سينقصه من العلم، وإذا نقصه العلم ماذا يكون في مكانه؟ ملأ الجهل، وبالجهل يجره الهوى والشبهات، فلهذا سيختار الرأي الأسهل والمناسب له بلا تعب، ما يشغل باله. فلهذا الإنسان في هذه الحال يرجع إلى العلم، لأننا نسمع كثيرا أن الدين يسر، اعمل ولا حرج، يعني الأمور سهلة جدا. صح، هي سهلة والحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله، لكن هذه السهولة وهذه الوسطية أهل العلم هم الذين يختاروها لنا. لماذا؟ لأنهم يختارون الصواب أو الرأي الأصوب بعلمهم، بما أعطاهم الله من العلم، هذا العلم الذي يجرهم إلى اجتهاد، يجرهم إلى اجتهاد، لأننا نحن لسنا أهلا للاجتهاد، نحن إلا عندنا آراء، أظن، أرى، أعتقد فيما يظهر لي. لا، لكن العلماء يقول لك هذا القول الراجح لقوله تعالى كذا، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول أهل العلم، أو لقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو يعني هذه منهج أهل العلم في اختياراتهم واجتهاداتهم. فلهذا الأنسب لنا والأصوب أن نرجع إلى العلماء الذين هم يرون ما هو الصواب في هذه المسائل. هذا هو المنهج الذي أنصح نفسي به وأنصحكم به. فلهذا الإنسان لا يتهاون ويقول أنا ما أحتاج أرجع إلى عالم، أنا يكفيني أن أنظر إلى مذهب وبس، الأمر سهل. صح، هو الأمر سهل، لهذا أعيد وأكرر أن الأحسن الرجوع إلى أهل العلم الذين يعني طلبوا وهم حرص هذا الدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فلهذا الإنسان يحترز ويحرص أن يرجع إلى العلماء. فإن شاء الله سأقرأ عليكم كلام أهل العلم فيما يخص هذا المسألة، مثلا حكم مسح الذكر هل ينقذ أو لا ينقذ. فإنسان يعني قرأنا عليكم حديثين، والظاهر من هذا الحديث أنهم يتعارضان، فما العمل؟ فلهذا قلت لكم إن شاء الله نرجع إلى أهل العلم، وأهل العلم ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يجمعوا بين الأقاويل حتى لا يردوا حديثا عن آخر بالآخر، واضح أم لا؟ لا يأخذون الحديث الأول ويردون الثاني، ولا يأخذون الثاني حتى يردوا الأول، لكن يحاولون أن يعطوا رأي، يعني أن يجتهدوا بأن يجمعوا الأحاديث، بأن يجمعوا الأحاديث، وهو القول أو يعني الأقرب إلى الصواب إن تيسر. إن لم يتيسر هنا ينظرون هل أحد الأحاديث نسخ الآخر، مهم في يعني مراتب للجمع بين الأحاديث أو بين الأقوال. فالأولى هو نحاول أن ننظر هل يمكن الجمع، بمعنى هل عندنا رأي، أو في حالات يعني نقيد الحديث الأول، يعني الحديث الأول بقيود أو بضوابط حتى نستطيع أن نعمل بالحديثين وهو الصواب، لأن الإنسان الذي عمل بين الحديثين كان أقرب من الصواب من الذي عمل إلا بأحد الحديثين، لأنه إذا يعني عمل بأحد الحديثين ترك الثاني، وهذا لا شك. فالإنسان إذا عمل بالحديثين كان أقرب إلى الصواب. أقرأ لكم كلام الشيخ فيما يخص هذه المسألة. Donc j'essaie de vous dire, comme on vient de le dire, je vais lire un passage de Cheikh Abdallah Al-Bassam. Il a essayé de regrouper les deux hadiths, c'est-à-dire il a donné un avis qui regroupe, dans lequel on peut utiliser les deux hadiths. Je vais vous lire. Ma yukhadhu min al-hadithayn, ce qu'on peut retirer de ces deux hadiths. Il a dit al-hadithan sahihan. Donc les deux hadiths, ils sont authentiques. Parce que si un était faible et l'autre authentique, qu'est-ce qu'on doit prendre? Authentique, on s'arrête là. Parce que l'autre il est faible. Donc c'est bon. Le problème ici, les deux sont authentiques.
ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر
كما ذكر. Il a donné une faïda. Si on peut regrouper ou réunir ces deux hadiths, c'est mieux d'utiliser qu'un et de laisser l'autre. Ce qui est normal, qu'on vient de l'expliquer.
الثاني, ce qu'on peut retirer de ce hadithain, حديث طلق تدل,
c'est-à-dire le premier hadith qu'on vient de citer,
يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
D'après le premier hadith, on tire que toucher la partie intime, ça n'annule pas les ablutions.
وقد علله بقوله.
Il a justifié pourquoi ça n'annule pas les ablutions. Et ça, c'est cette partie, elle est très importante. Parce qu'il a dit, il a précisé, il a dit,
إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ.
Ce n'est qu'une partie de toi.
وَالْبِضْعَةُ الْقِطْعَةُ أَيْ مِنْ أَيْ وَضْعِكَ مِنْ أَيْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِكَ.
Et le terme, الْبِضْعَة, c'est-à-dire une partie. Une part.
مِنْ أَيْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِكَ.
C'est-à-dire n'importe quelle partie d'un membre de l'être humain.
Troisième, ce qu'on peut retirer de ce hadith, hadith al-Busra yadullu ala anna massa dhakar yunqidhu al-wudu.
Et c'est vrai, le deuxième hadith, il est clair, il dit que toucher la partie intime annule les ablutions. Quatrième chose qui, et c'est là le, on peut dire le dars, c'est là il commence, on peut dire. Là il va donner comment on peut regrouper ces deux hadiths.
أفضل ما يجمع بين الحديثين بإحدى طريقتين.
Donc la meilleure façon ou la meilleure chose qu'on peut pour regrouper ou réunir ces deux hadiths, c'est les deux méthodes suivantes.
La première, الأولى أو الأول, أنه ينقض الوضوء إذا مسه بلا حائل.
Oui ou pas? Il a dit toucher la partie intime annule les ablutions s'il le touche sans intermédiaire. C'est-à-dire s'il le touche directement. Là, ça annule les ablutions.
فَإِنْ مَسَّهُ بِحَائِلٍ لَمْ يُنْقِرْضِ
لَمْ يَنْقُضِي
لَمْ يَنْقُضِي
لَمْ يَنْقُضِي بمعنى لَمْ يَنْقُضِي الوضوء. Mais s'il le touche, comme il vient de le dire, bihail, avec intermédiaire, s'annule les ablutions. Et ce qui renforce cet avis, ou cette façon de réunir ces deux hadiths,
riwaya, la version, ar-rajulu yamussu dhakarahu fi salat.
On l'a entendu dans la première version du hadith, il dit, l'homme touche, écoutez très bien, l'homme touche sa partie intime pendant la prière. Donc certainement, si on touche pendant la prière, c'est direct ou indirect? C'est indirect, ça veut dire avec l'intermédiaire d'une chose. Parce que certainement, quand on fait la prière, on cache la partie intime. Donc certainement, on ne la touche pas directement. Donc il a dit, c'est pour ça, il a dit, c'est un avis, il dit, donc si on le touche directement, s'annule les ablutions. Si on le touche avec un intermédiaire, ça n'annule pas les ablutions. Est-ce que vous avez compris ça? Hajj. Mais ça suffit ou pas? Est-ce que c'est clair pour ça, pour tout le monde ou pas? Pourquoi? Parce qu'avec ça, ce que je viens de dire, si on touche directement, on va appliquer le premier hadith, oui ou pas? Parce que le prophète il a dit in la yamusu rajulu alayhi alwudu fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam la innama huwa bid'atun minka. Pendant la prière, si on le touche, certainement, avec l'intermédiaire de quelque chose. Donc, ça, ça n'annule pas les ablutions. Et ça confirme le prophète que c'est l'a dit, parce qu'il a dit, innama huwa bid'atun minka. Ce n'est qu'une partie de toi. Ce qui est normal. Si on touche directement, ça annule les ablutions ou pas? C'est quoi le dalil? C'est quoi la preuve? Ben, le deuxième hadith. Vous remarquez cet avis, le fait de toucher directement, c'est-à-dire avec un intermédiaire ou pas, ça permet de regrouper les deux hadiths. Est-ce que c'est clair? Hajj. Une deuxième façon, il y en a, ils ont dit plus que ça, ils ont dit, il y a une autre chose, pour regrouper les deux hadiths. La deuxième, إِنْ مَسَّهُ بِشَهْوَةٍ يُنْقِذُ الْوُضُوءَ. Si le touche avec désir, c'est ça? Si le touche avec désir, il annule les ablutions. C'est normal ou pas? طيب. وَمَسُهُ بِدُونِهَا لَا يُنْقِرْ. Et le toucher sans désir, ça annule pas les ablutions. Vous remarquez cette deuxième façon de regrouper les deux hadiths? Et c'est vrai, parce que si on touche avec désir, ça annule ou ça annule pas? Si je touche avec désir, ça annule ou ça annule pas? Ça annule. C'est quoi l'argument? Mais c'est le deuxième dé, pourquoi le prophète a dit Men massa vakarau faliatawada. Celui qui touche sa partie intime, qu'il refasse les ablutions. Vous remarquez ou pas? Mais si je ne le touche pas avec désir, ça annule ou ça annule pas? Ça annule pas. Pourquoi? Parce que je prends le premier hadith qui dit Innama huwa bir'atun minka. C'est qu'une partie de toi. Et c'est vrai. Toucher la main, ça annule les ablutions? Hein? Toucher les oreilles, ça annule les ablutions? Donc c'est la même chose, toucher la partie intime, parce qu'il n'y a pas de désir. Je l'ai touché. Soit avec intention, soit faire attention. Hein. Il ne faut pas dire, parce qu'il y en a, ils disent, est-ce que c'est avec intention sans intention? Il n'y a pas d'intention dedans. Tu sais très bien si tu dis que tu l'as touché avec désir ou pas touché avec désir. Mais avec intention, sans intention, là, ce n'est pas le sujet. Est-ce que c'est clair? Nous, on parle, si tu l'as touché avec désir, ça annule les ablutions et on va mettre en pratique le deuxième hadith. Si tu l'as touché sans désir, ça annule pas les ablutions et on va utiliser le premier hadith. Donc, vous remarquez deux façons comment on peut regrouper les deux hadiths. Parce que parmi nous, souvent, il a un seul avis, mais si toi tu le viens, tu lui dis non, le prophète en a dit, il va dire mais non, non, non. C'est le cas, par exemple. Une personne, son avis, que ça annule les ablutions dans tous les cas. Et si moi je viens, je lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama huwa bid'atun minka. Et le hadith, il est sahih. Et le hadith, il est sahih. Il n'y a même pas le doute sur le hadith. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Je redis, une personne, son avis, supposons la personne est en face de moi, son avis, c'est que ça annule les ablutions dans tous les cas. Soit avec désir, sans désir, avec intermédiaire, sans intermédiaire. C'est le cas. Et moi, je viens de lui dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama huwa bid'atun minka. Ce n'est qu'une partie de toi. Là, il fera quoi? Il ne saura pas quoi faire. Et vice versa. Si la personne, son avis, c'est que ça n'annule pas du tout les ablutions. Et moi, je viens, je prends le deuxième lien, je dis non, le prophète m'a dit, Men massa vakara ou faliatawava. Je dis le contraire. Que fera-t-il? Là, il ne saura pas comment se comporter avec le deuxième hadith. Mais moi, si je suis, j'ai un avis qui regroupe les deux hadiths. Donc, soit si on touche avec intermédiaire, ça annule les ablutions, oui ou pas? Ou le toucher avec désir, ça annule les ablutions. Et ça, ça permet de regrouper les deux hadiths. Ou, la deuxième chose, si je ne touche pas avec désir, ou je touche avec intermédiaire, là ça n'annule pas les ablutions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment on peut regrouper les deux hadiths selon la parole des savants? Et cet avis, je veux dire, c'est pas celui qui a expliqué le livre, c'est son propre avis. Je vais vous lire certains sahaba, c'est leur avis ça, que le fait de toucher la partie intime, ça n'annule pas les ablutions. Et ça, du livre At-Tarjih fi Masail al-Tahara wa Salat. C'est un livre qui regroupe ou qui essaie de prédominer les avis. C'est un docteur dans le hadith, à Mecca al-Mukarrama, dans Dar al-Hadith, le Cheikh Ahmed Bazem, Mohamed ibn Omar Bazemmoul. C'est un livre très bien. Donc, Mohamed ibn Omar ibn Salam Bazemmoul. عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كلية الدعوة ووصول الدين بمكة المكرمة. Donc il a fait un livre qu'il a appelé At-Tarjih fi Masail al-Tahara wa Salat. Il traite certains sujets, une vingtaine, une quinzaine de sujets. Et toujours, vraiment, je veux dire, il creuse vraiment dans le sujet. C'est pas de l'apparence, etc. Il cite vraiment tous les adillas de chacun. Il essaie de prédominer les avis. Et il est très très bien ce livre. Donc dans ce livre, il traite le sujet est-ce que Masal Takar yon qibul wudu. Donc je vais lire le passage. Il dit وَقَدْ سَبَتَ عَنْ Écoutez, il était rapporté où c'est les avis de qui? De certains sahaba qui, ils voient que toucher la partie intime, ça n'annule pas les ablutions. Et en plus, c'est-à-dire après ce qu'on vient de dire
وَقَدْ سَبَتَ عَنْ عَلِي
Écoutez très bien. Il était rapporté que Ali,
radiallahu anhu, wa an Ammar ibn Yasir, wa ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, wa Hudhayfa ibn al-Yaman, wa Imran ibn Husayn, wa Abi Darda, wa Qais ibn Talq, wa ibn Jubayr, wa Nakhi, wa Taus, annahum la yarawna an-naqdha min masik, min lam sitaka.
Vous remarquez, ces 12 grands sahaba, ils ne voient pas que de toucher la partie intime, ça annule les ablutions. Mais aussi, il y a des autres sahaba qui voient que ça annule les ablutions. C'est pour ça qu'on a dit, la divergence, elle existe. C'est pour ça, déjà, il existe déjà deux hadiths. Parce que certains sahaba, ils sont basés sur le premier hadith. Certains sahaba, ils ont choisi le deuxième hadith. Et ce que je viens de vous lire de livre Tawdi' al-Hakam, avec les deux façons pour regrouper le hadith, j'espère qu'il est clair. Et parmi les savants qui ont choisi cette façon, c'est-à-dire la meilleure façon, c'est regrouper ou réunir ces deux hadiths, il y a Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmahullah. Et on a dit, c'est parmi les grands savants, surtout dans ces cas, وَهَذَا اخْتِيَارُ ibn Taymiyyah, c'est-à-dire l'avis qui dit que la meilleure, est-ce que c'est-à-dire lui, il ne dit pas que ça annule toujours, comme il ne dit pas que ça annule pas toujours. Donc il a vie intermédiaire qu'on vient de citer.
وهذا اختيار ابن تيمية حيث قال والأظهر أن الوضوء من مس الذكر يستحب.
Donc Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله, et je vous ai dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, s'il parle, s'il donne un avis, c'est après qu'il a étudié toutes les écoles. C'est pas seule école. C'est pas il est Hanefi ou Maliki. Il étudie les quatre écoles. Et les autres écoles, ensuite il déduit l'avis le plus fort. C'est pas un seul avis. C'est pour ça, Cheikh Sam ibn Taymiyyah, on connaît, il suffit de revenir juste à ses fatawas. Juste à ses fatawas. Si vous revenez à ses fatawas, c'est vraiment étrange ce qu'il y a dedans. Je crois actuellement qu'aujourd'hui, il y a des grands savants, toujours ils reviennent à ses fatawas. D'une sorte que quand on lit une fatwa, il cite tous les sahaba qu'ils ont dit, tous les tabi'in, tous les ulama, les quatre écoles, les autres écoles, les grands savants à son époque, qui l'ont précédé, ses chouyours, plusieurs. Ensuite, il essaie de donner l'avis le plus fort. Et c'est pour ça, donc l'avis d'Ibn Taymiyyah, il dit wal-adhar, donc ce qui paraît que les ablutions pour, c'est-à-dire de toucher la partie intime, est préférable la wajib et non pas et n'est pas une obligation.
وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه.
إمام سيسا سلافي دو أحمد بن حنبل.
وبهذا نجمع الأحاديث.
Il fait de dire que toucher la partie intime est préférable avec ça, et surtout avec les détails qu'on vient de citer, ça permet de regrouper les deux ou l'ensemble des hadiths.
والآثار بجعل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ في نسخ قوله وهل هو إلا بضعة منك.
Donc cette expression
وهل هو إلا بضعة منك,
c'est elle, parce que il faut savoir que dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, écoutez très bien, ça c'est important, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne un ordre, est-ce que l'ordre qu'il le donne c'est une obligation, est-ce que c'est une préférence? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Aïe, qui peut me répondre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, par exemple, dans ici, man massa zakarahu falyatawadda, celui qui touche sa partie intime, qu'il fasse les ablutions. Pourquoi on ne dit pas que ça c'est une obligation de le faire? En réalité, c'est vrai, tout ce qu'il leur donne le prophète, c'est une obligation. Sauf s'il y a un texte qui le dévie ou le dérive vers la préférence. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si le prophète a dit juste un seul hadith qui est man tawadda afal. Celui qui touche sa partie intime, qu'il fasse les ablutions. Donc là, c'est clair que ça, c'est une obligation. Mais c'est quoi la chose qu'il a déviée ou dérivée ou l'a changé de situation d'une obligation vers une préférence? C'est cette expression. Ala wa hal huwa illa bid'atun minka. Ce n'est qu'une partie de toi. Donc avec cette expression, ça prouve que ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est clair? Et هذا الشيء يصرف هذا الحديث من الوجوب الى الاستحباب. Donc c'est ça l'avis que je prédomine selon d'après l'avis de Ibn Taymiyyah rahimahullah et Ahmed ibn Hanbal et certains sahaba et même le Cheikh Al-Bissam rahimahullah, d'après ce que je vous ai lu de son livre. Donc, est-ce que c'est clair concernant ce sujet? هل اتضح لكم حكم مس الذكر بعدما قرأت عليكم يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وترجيح الشيخ يعني محمد بازمول والشيخ عبد الله البسام وغيره من أهل العلم من يرى هذا الرأي بأن يعني الراجح في هذه المسألة هو بهذا الجمع. يعني إذا كان بإمكان الجمع فهو أولى من النسخ أو غير ذلك. نعم والله تعالى. لا يعني selon ce qu'il a rapporté Cheikh Ahmed Bazemmoun, non, il n'a pas précisé dans le passage. والله تعالى أعلم. Donc ça, les savants toujours ils essaient de regrouper les hadiths, ce qui est très important. Donc je vous recommande toujours d'essayer d'avoir ça en cas de contradiction, c'est-à-dire apparente du hadith, hein. Ça ne veut pas dire que toujours le prophète il disait deux choses, non. Certes, des fois on trouve que un hadith dit par exemple il y a tous les hommes, il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi l'avis des savants qui regroupent les deux hadiths ou les plusieurs hadiths, parce que des fois on peut en trouver plusieurs, donc on essaie de revenir à eux pour nous éclaircir et choisir l'avis le plus fort. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Si je peux. On a dit, les savants, ils n'ont pas différencié. Il y a certaines écoles, ils différencient. Si le touche de la pointe de la main, ou toucher la partie haute de la main, mais dans les hadiths, il n'y a pas cette différence. Dans les hadiths, c'est pas indiqué si tu l'as touché de cette, c'est-à-dire de quel côté. Il y a le terme main. Donc c'est pas indiqué Allah Ta'ala. Et c'est vrai, il y a certaines écoles qui disent ça. Hein. Si il y en a que parmi nous, peut-être ils ont l'avis de leur école. S'ils ont un argument, ils viennent. Ça serait bien qu'ils me le transmettent. Au moins, je profite avec eux. C'est ça le délire. Je veux dire, c'est ça le cyclène. Fahim. Fahim. J'ai compris. Donc lui, il dit d'après la raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un argument. Moi, si je dis, s'il connaît, c'est pour ça. L'ulama, ils disent, c'est très important, al-ilm qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahabatuhum ul-ilmani. Celui qui connaît un verset qui dit ça, ou un hadith, on est, ou un avis des sahaba, parce que peut-être on peut trouver des grands sahaba, ils ont lu cet avis. Celui qui a cet avis, il vient me voir et il me le transmet. Parce que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas ni un verset, ni un hadith, ni encore un sahabi qui dit ça. Donc moi, je ne peux pas vous le dire. Moi, personnellement, je ne peux pas vous transmettre et dire, c'est vrai, l'aql, on peut l'utiliser. Mais est-ce que les sahaba, ils l'ont dit? C'est-à-dire, c'est eux-mêmes, ils l'ont dit. Allahu alam. Celui qui trouve un... Dans le maraji' par exemple de Sharia, si tu arrives à trouver, ça serait bien, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je sais qu'il y a certaines écoles, ils l'ont dit, j'ai lu, alhamdulillah, certains livres, ils le disent, mais il n'y a aucun argument sur ça. Allahu alam, pourquoi ils ont distingué, même s'il a dit le frère, il a dit, parce que la paume de la main et les cuisses, c'est la même peau. Allahu alam. Comment on arrive à dire ça? Allahu alam. Oui, je sais, il a dit c'est la raison. Mais c'est point d'interrogation sur ça. Il faut voir, Inch'Allah. Certainement, il y aura des délais sur ça si ça existe. Si je vous trouve quelque chose, je vous transmets, Inch'Allah. Non. Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'ai mon avis personnel, mais je préfère de vous dire autre chose. J'ai un avis, ça c'est sûr et certain, mais je préfère de vous rapporter ce qu'ils ont dit, ça, les savants, et sur ça exactement. J'ai un avis, il n'y a pas de... Donc d'ici le vendredi, on aura l'occasion de parler sur ça. Parce que le vendredi, on va terminer le rosh. On va parler sur, Inch'Allah, le fait de toucher un enfant, surtout pour les femmes qui nettoient leurs enfants, etc. Parce que c'est très important, parce que si tu touches... Ou même, si l'homme, il touche la partie intime de la femme, est-ce que ça annule? On aura l'occasion de parler. Si l'homme ou la femme touche un enfant, en nettoyant ses couches ou je ne sais pas, est-ce que en touchant la partie intime d'un enfant, est-ce que ça annule ou ça annule pas? On aura l'occasion de parler aussi sur est-ce que le sang, c'est une impureté ou pas? Ou est-ce que ça annule les ablutions? Parce que le sang... Des fois, certains ils font la prière ou avec le sang, parce qu'il égorge, il peut travailler dans les boucheries, ou par exemple le réar, comment on appelle le réar? Saigner, ouais voilà, saigner du nez, c'est ça? Voilà, est-ce que ça annule les ablutions ou pas, parce qu'il y a du sang dedans, on aura l'occasion de je vous rapporte et je vous regroupe les paroles du savant. Et certains sujets aussi plus importants aussi, on aura l'occasion de leur parler aussi, Inch'Allah. Quatrième sujet qu'on va traiter, Inch'Allah, on aura le temps, Inch'Allah, qui est ça concerne... Ah, oui. Le quatrième sujet qui est, ou qui concerne, la conversion d'un mécréant, ou le fait qu'une personne se convertit. Ça nous arrive beaucoup. Il y a certains frères qui nous viennent voir, ou qui se convertit, alhamdoulilah. Souvent, on entend, tu dois faire les ablutions, et après tu dis shahada, etc. On entend beaucoup de ça. On verra, est-ce que les ablutions... d'un converti oblige un bain rituel, oblige un rosl. Ça n'a rien, yani, le mot arabe, Inch'Allah, fait les leïla, hukm, rosl, islam, le kafir. حكم غسل إسلام الكافر. يعني نسمع كثيرا أن البعض من يوجب ويشترط يعني الغسل قبل أن يدخل يعني قبل أن ينطق بالشهادتين. نسمع كثيرا وأنا سمعت بهم يعني أذني j'ai entendu certains ils disent que tu dois faire les grandes ablutions, le bain rituel pour que, et après tu reviens pour réciter shahada. Et ça, c'est malheureusement, c'est pas la bonne façon. Si personne ne vient me dire moi je veux entrer dans l'islam, on lui demande que tu prononces la shahada. On verra ce que le jugement est obligatoire, parce que c'est pas une condition. Parce que là tu es en train de retarder son entrée dans l'islam. Tu dis va faire les trucs, oui ou pas? Il dit va faire les grandes ablutions. Il ne sait pas. En plus, peut-être il va prendre du temps, il va rester une journée, il ne sait pas. Ça arrive. Pourquoi on nous dit ça? Et malheureusement, on arrive à ça de dire tu dois faire les ablutions après tu reviens. Non, akhi. Mat tariq. Mat kafir, hein? Mat kafir. Donc, on peut arriver à ça que de dire va faire les ablutions après il revient. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Il peut mourir pendant le trajet. En allant faire, parce qu'il n'a pas prononcé shahada. Et nous, on sait très bien, dans l'islam, an-naqb shahadatayn shart lidukhul islam. On sait très bien que la prononciation de la session, c'est une condition de l'entrée dans l'islam. Donc si on lui dit non, reviens après, comment on se permet de... Est-ce que le prophète sallam a recommandé ceux qui venaient vers lui? C'est pour ça que je vais vous lire certains hadiths sur ce sujet. Est-ce que leur demander aller faire le bain rituel après tu reviens? On aura l'occasion de... C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Taïb. Donc je vais vous lire un hadith de livre de Bulugh al-Maram aussi. An Abi Hurayra radiyallahu anhu fi qissati Thumama ibn Unari عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. سلام الحديث de Abu Huraira رضي الله عنه dans l'histoire de ثمامة ابن أنال. Donc c'est un nom de sahabi. عندما أسلم quand il s'est converti وأمره et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a ordonné, c'est-à-dire l'a ordonné ce sahabi de faire les ablutions. Donc vous remarquez ce hadith, peut-être de son apparence, on peut comprendre que Rasul ou Al-Kafir يجب عليه أن يغتسل. واضح أم لا؟ يعني من ظاهر هذا الحديث. درجة الحديث صحيح. C'est-à-dire le degré du hadith, il est authentique. فقد رواه البيهقي عن طريق عبد الرزاق وسنده صحيح من رجال الشيخين وأصله فيهما وصححه أيضا ابن خزيمة. Donc ça c'est les savants qui ont rendu ce hadith authentique, et le hadith il est authentique, alhamdulillah. Donc de l'apparence du hadith, on déduit que un converti doit doit prononcer shahada, ça c'est sûr et certain. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. Ensuite, il a ordonné qu'il fasse le bain rituel. On verra aussi. Donc, de l'apparence. Donc, je vais vous lire. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants sur ce hadith? Ce qu'on peut retirer de ce hadith, d'après le shir, أن من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. Parce que le cas où on a les cas qu'on entend, c'est-à-dire l'histoire que je viens de vous citer, le fait de dire allez faire les ablutions, reviens, ça c'est avant qu'il rentre. Ça c'est pire. C'est avant qu'il rentre, il dit va faire les ablutions, le bain rituel, etc. Le hadith et le sujet que moi je traite, je précise, c'est après le shahada. Est-ce qu'il est obligé qu'il fasse le bain rituel? Est-ce que c'est clair? De dire, c'est-à-dire ce qui arrive ici, c'est ça n'existe nulle part. C'est pas une divergence, ça n'existe nulle part. Va faire les grands ablutions, après il revient faire. Ça n'existe nulle part. Je connais pas du tout un hadith ou un khilaf de sahaba ou un verset qui dit que tu dois aller faire. Ça c'est le pire de cas. Nous, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'après qu'il a prononcé shahada, on l'oblige à faire al-ghusl? Est-ce que c'est clair? Donc d'après le hadith que je vais te citer, d'Abu Huraira, il a ordonné, sahabi, Thumama ibn Hunal, عندما أسلم, quand il s'est converti, quand il est rentré dans l'islam, il a ordonné qu'il fasse le bain rituel.
Donc les ulama, ils ont dit de ce hadith, à partir de ce hadith, إن من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا.
Donc parmi les choses qui nécessitent le bain rituel et la conversion. Islam al kafir. Walaw murtaddan. Walaw murtaddan. C'est-à-dire, parmi les choses, ou parmi les choses qui demandent un bain rituel, qu'une personne rentre dans l'islam, ou ridda. C'est-à-dire, il était musulman, il est sorti de l'islam, et après il est revenu à l'islam. C'est ça, ridda. Rida, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam, soi-disant qu'après sa sortie de l'islam, il est revenu à l'islam, il est rentré une deuxième fois dans l'islam. Donc là aussi, ça nécessite le bain rituel. Pourquoi? Parce qu'il était mécréant. C'est-à-dire, il était mécréant.
Parmi les fawaid de ce hadith, ظاهر الحديث وجوب الغسل. Selon le hadith, l'apparence du hadith, وجوب الغسل.
Parce que le Nabi sallam amarahu bil ghusl. Le terme dans le hadith, il est marqué amara. Il a ordonné de faire le ghusl. Donc ça, normalement, de l'apparence du hadith, on déduit qu'il est obligatoire de faire le bain rituel pour le convertir. C'est-à-dire après la conversion.
Sawa wajada minhu min fi kufrihi ma yujibu al-ghusl aw la.
C'est-à-dire là dans le hadith, ou même le cheikh le dit, soit il y a une raison pour laquelle il nécessite le ghusl. Pour vous simplifier, je donne un cas. Un converti, il était en état de janab. Il est en état de janab. Il peut avoir ou pas? Il rentre dans l'islam. Est-ce que après shahada, est-ce qu'on lui demande de faire les ablutions ou pas? Dans les deux cas, Selon le hadith, il doit faire parce qu'il a demandé de faire les ablutions. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il était mécréant ou est-ce qu'il y a une cause ou une raison qui lui demande de faire les ablutions? C'est le cas, par exemple, il a commis une impureté majeure. Donc, pour les deux cas, selon le hadith et de son apparence, c'est une obligation. Et après, on va voir la vie le plus juste. Hein. Ça, c'est d'après le hadith.
Qala al-fuqaha.
Les savants, de jurisprudence ont dit
الحكمة من وجوب الغسل عليه أن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة.
Ulama, ils ont dit parmi les raisons pour lesquelles le kafir après sa conversion, il fait le bain rituel parce que en général, il est en état de janaba. Parce que c'est normal. Si Ujamia, soit Zawjata ou Ghayraha, il est en état janaba. C'est pour ça, en général, il est en état janaba. Parce qu'il ne fait pas de l'os à la base. Donc c'est pour ça, le Prophète a demandé au converti de faire le bain rituel.
Qala al-fuqaha aynan, les savants ont dit aussi, la yalzamu man. ولا يلزم الذي أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام.
C'est pour ça que je dis, une personne, il est en état janaba, un kafir qui est en état janaba, il rentre dans l'islam, le fait qu'il fasse le bain rituel pour sa conversion, elle suffit, même s'il a une autre cause comme une janaba pour autre chose. Est-ce que c'est clair? Je vous donne le cas d'extrême. Un kafir, il est en état de janaba, il va se convertir juste avant le Jumu'a. Il doit faire quoi? Un kafir, il est en état de janaba, il va se convertir juste avant Salat al-Jama'a, Salat al-Jumu'a, le vendredi. Il fait quoi? Combien de ghusl il va le faire là?
Hein? Hein? Un ou trois? Allez, mes deux, d'accord. Un ou trois?
Ça mieux.
Il suffit de faire un seul. C'est pour ça, même les autres causes qui nécessitent le ghusl, ça suffit de faire ghusl islam. Selon le hadith. Est-ce que c'est clair? وقال الفقهاء ce qu'on peut retirer aussi du hadith يستحب للكافر et ça c'est l'avis aussi que c'est l'avis du shir c'est un avis plus fort aussi يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعره donc il est préférable aussi pour le converti qu'il rase ses cheveux ويغسل ويغسل ثيابه et qu'il lave aussi ses habits أو يبدلها بغيرها ou il les change c'est-à-dire il échange ses habits لما روى أبو داود والبيهقي donc أبو داود البيهقي ont cité on va rapporter un hadith عن عثيم ابن كثير ابن كليب الحضرمي عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم donc un sahabi qui s'est converti il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit إلقي عنك شعر الكفر donc jette ses cheveux de mécréance donc c'est pour ça à partir de ce hadith qui est rapporté donc Abu Daoud al-Bayhaqi ils disent il est préférable qu'il prenne ses cheveux ou il les rase selon le hadith قال النووي l'imam al-Nawawi vous connaissez très bien qu'est-ce qu'il a fait l'imam al-Nawawi il a fait un sharh de sahih صحيح مسلم et parmi les grands ulama et les savants les de référence dans le fiqh et même dans presque les autres sciences on a Ibn Hajar parce qu'il a fait sharh de Sahih al-Bukhari on a l'imam al-Nawawi l'imam al-Nawawi parmi les grands ulama de Shafi'iyya parmi les grands ulama de Shafi'iyya il a dit isnaduhu laysa bilqawi donc lui il a dit pour lui il a affaibli ce hadith لأن يقيل سيتي لا raison pour laquelle ولم يوثق لكن أبا داود mais donc il donne une autre raison mais أبو داود il a rapporté mais il n'a pas affaibli ce hadith وقد قال إنه إذا ذكر حديثا ولم يضعفه فهو عنده صالح فهذا الحديث عنده حسن donc selon أبو داود le hadith il est حسن Donc c'est pour ça, il recommande, il est préférable pour que le converti prenne de ses cheveux. Pour ça là hein? Donc on s'arrête là, et le vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on continue. Hein? Je ne sais pas, si vous voulez que je lis un passage ou... J'ai pas compris. Jazakallah, frère. Donc le vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on continue, je terminerai ce point. Et on traitera les sujets qui restent, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.